Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant théâtre avec le spectacle Opa. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Alors, pour parler de ce spectacle, j'ai avec moi dans les studios, ça y est, on a quelqu'un dans les studios avec nous. J'ai avec moi Ilka Firkant. Bonjour Ilka.
Bonjour Vanessa et bonjour Shelley.
Merci beaucoup d'être venue dans nos studios présenter le spectacle Opa.
Merci de m'accueillir.
Alors, expliquez-nous un peu comment est née cette idée de spectacle.
Cette idée de spectacle est née avec la rencontre avec Jean Weisslich. Jean Weisslich, c'était un Toulousain qui a déménagé à Toulouse en 45 et polonais d'origine et qui a grandi à Łódź et en 1939, quand la guerre a commencé en Pologne, il était mis au ghetto de Łódź, puis cette terrible histoire avec du camp en camp, il arrive à Auschwitz.
Alors, le fameux camp,
ouais. Ouais, Auschwitz-Birkenau.
Oui.
Et en 2016, j'ai écouté sa lecture à la librairie Ombre Blanche, où il parle de ce qu'elle a vécu, et entre autres qu'il était travailleur forcé pour mettre les rails. Et je venais juste d'apprendre que mon grand-père était stationné à Cracovie au général gouvernement de direction des trains de l'Est pour s'en occuper des rails. Et je l'ai vu devant moi, Jean et mon grand-père ensemble, et c'était insupportable.
Et oui, en fait, vous voyez la scène, quoi, sur les rails, l'un en train d'être forcé,
ouais.
L'autre en train de commander pour forcer, c'est ça?
Bon, je les voyais physiquement au même endroit, et moi, petite fille, mêlée dans une histoire que j'avais pensé que c'était l'histoire. Et d'un coup, c'était mon histoire. Et ça a changé complètement la donne pour moi. La donne de mon implication. Je ne pouvais plus juste prendre mon regard de concitoyen,
de témoin,
de regarder. Moi, bon, enfant, je suis allée au camp de concentration, je travaillais avec les... Mais j'avais toujours pu le mettre à distance. Mais avec Jean, je ne pouvais plus.
Et oui, il y a eu un électrochoc, en fait. Mmh. Le fait qu'il raconte cette histoire vous a fait prendre conscience du caractère qu'avait votre grand-père, malheureusement, dans cette histoire.
La position qu'avait mon grand-père, ouais. Et ma position dans cette lignée,
oui, tout à fait.
Que j'ai à faire avec cette histoire, que je ne pouvais plus m'enlever. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé de faire quelque chose, je ne savais pas. J'ai pensé de vouloir faire quelque chose sur mon grand-père d'abord. Et j'avais fait un concert accordéon, chant, violine, clarinette. Et je raconte l'histoire de toute ma famille et la rencontre avec Jean. Et j'ai pleuré. À chaque histoire, j'ai éclaté en pleurs. Et je me suis dit, impossible, je ne peux pas, impossible, il faut trouver la distance. Et je l'ai trouvé dans la forme d'une marionnette.
Oui, c'est ça, en donnant vie, en fait, à ce personnage par une marionnette.
Oui, alors j'ai construit une marionnette qui est ma taille, et que moi je suis dans son sac à dos. Et pour moi c'est très significatif parce que, alors, cette marionnette représente mon grand-père, mm-hmm. qui est visible, qui aurait voulu vivre 1000 ans, dans le millénaire. Aïe. Et que moi, petite fille, vivant, je suis invisible. Parce que je n'existe pas dans ma... Alors, j'ai voulu jouer sur cette visible-invisible. qui fait... C'est un thème, en fait, de tout ça.
Oui, et puis en fait, c'est, bah, il vous porte sans qu'on vous voit.
Oui, mais je peux me défaire aussi.
Oui.
L'acte de me défaire de mon grand-père et de trouver mon identité de femme d'abord, et après de témoin, et après de dessiner tout ce processus de conscientisation jusqu'au deuil. En fait, qu'il faut faire. Et dans les années 60-70, il y avait un livre très célèbre, l'incapacité de faire le deuil, d'une fille qui a été trauma. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire le deuil. Alors, sur scène, je fais le deuil à la fin pour pouvoir vivre avec sans m'attacher à cette souffrance.
Sans vous sentir coupable, en fait, d'une certaine manière.
Sans me sentir coupable, mais concernée.
Mm-hmm.
Et concernée.
Oui. C'est très dur comme histoire. Hein. Comment on fait pour le mettre, pour l'écrire, pour pouvoir transformer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous voulez exorciser? Comment vous faites pour le mettre par écrit?
Bon, j'ai demandé l'aide.
Mm-hmm.
Alors, c'est Bernadette Pourquier, qui est une écrivaine de théâtre, qui a beaucoup d'expérience. Je lui ai demandé de m'aider, mais j'avais déjà la trame. J'avais déjà construit la marionnette. J'avais déjà fait des interviews avec Jean et Marie, parce que je savais que je ne peux pas parler de cette histoire de mon grand-père sans Jean et Marie.
Mmh.
Impossible. Parce que ça mettrait... c'est comme si c'est une processus égocentrique. Et je voulais que cette balance, et surtout mettre en valeur Jean et Marie, et pas mon grand-père ni moi. Et ça s'est fait du coup, mais c'était très difficile l'écriture aussi, parce que c'était le confinement, on ne pouvait pas se voir. C'était assez difficile, très très difficile même. Aussi de comment commencer, alors que heureusement j'avais une amie musicienne, comédienne, Talia Henninger, je voulais absolument pas faire tout seul ce spectacle. Je voulais pas le faire tout seul, et j'avais
j'avais besoin d'être accompagnée pour mm-hmm. le faire. Ouais.
Alors j'avais demandé à Talia de m'accompagner, mais étant comédienne musicienne, elle joue le violon et en loop. Et elle est tombée enceinte, elle pouvait pas. Elle a dit, c'est ton histoire, c'est pas la mienne. Je t'accompagne, mais c'est toi qui dois le faire.
Oui, quand on se trouve comme ça, ça doit être difficile, quoi.
Oui, oui,
on
oui.
se dit, est-ce que je vais au bout? C'est vrai que vous avez dû douter, et c'est vrai que vous avez dû vous sentir un peu perdu à des moments.
Mais aussi indécent.
Mm-hmm.
Indécent de parler d'Auschwitz, de parler de... J'avais créé une marionnette pour Jean, une marionnette Muppets. Parce que j'avais ces interviews, je ne savais pas comment construire les interviews. Au début, c'était des Muppets. Et c'était tellement irrespectueux, en fait. Mais il fallait passer par les broussailleuses. Hein. Alors, il fallait trouver un chemin. Je ne savais pas comment. Et heureusement, il y avait un ami, comédien, danseur, prof technique Alexander, Ulrich Funke, qui avait un autre regard, qui m'a mis sur la piste que ça vaut tout seul. Ces interviews, tu les laisses tranquilles, tu ne fais rien. Ce qui est important, c'est le respect. Et là, je lui dis merci, gros, gros, gros merci, parce qu'il m'a donné une autre dimension à ce spectacle aussi. Mais bon, il faut un monde pour construire ça, parce que... Et heureusement, j'avais de l'aide. Oui.
Alors, il y a des paroles, je suppose. Je n'ai pas vu le spectacle encore. Hein. Il est le 24 et 25 mars au Théâtre Pavé. C'est ça, hein?
Oui, le 24 et 25 mars à 20h30. Et le 24, il y a une représentation qui, au début, était prévue scolaire. Et maintenant, elle est ouverte à tout public parce qu'il y a une traduction simultanée en langue des signes français.
Wow.
Ouais.
Ah oui. Ah, c'est beau, ça.
Ça, c'est très, très beau, j'espère.
C'est une ouverture totale du spectacle, quoi.
Oui. Et je me suis dit, oulala, comment je vais faire avec quelqu'un qui est à côté de moi, qui gestuelle, qui est très expressif, qui va être en quelque sorte comme un autre acteur.
Oui.
Et bon, je ne l'ai jamais fait. Je suis très curieuse de le faire. Je n'ai même pas pris contact avec la boîte de traduction langue des signes. Mais j'ai déjà hâte de voir cet effet de distanciation, d'effet de Brechtien, en fait, que d'avoir quelqu'un extérieur qui commente dans notre langue. Alors, c'est ouvert à tout public, toute personne qui veut venir, sourd, malentendant ou entendant, peut venir aussi voir cet spectacle en langue, traduit en langue de signe le 24 mars à 14h.
D'accord, donc le 24 mars à 14h, il y a une nouvelle, celle qui était normalement pour les scolaires, mm-hmm. C'est ça?
Bon, il y a aussi des élèves,
ils seront
parce
présents.
Que c'est une école de Ramonville qui va venir avec les sourds et malentendants, c'est pour ça qu'il y avait cette démarche. Et le théâtre a dit, quelle chance, il faut l'ouvrir à tout le monde, cette séance.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord, quelle chance. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, ça permet aux personnes qui ne peuvent pas de pouvoir nous entendre, de pouvoir comprendre et surtout de partager avec vous cette histoire quoi, qui vous prend, on le sent. Hein. Moi, je suis très émue par votre témoignage, par ce que vous nous apportez. Et j'ai vraiment l'impression que quand vous êtes sur scène avec ces marionnettes, ça apporte ce côté-là d'émotions très fortes et de dureté aussi, un petit peu.
Bon, je peux attaquer cette dureté grâce à la distance que j'ai gagnée avec la marionnette. En même temps, c'est pas un théâtre de marionnettes.
Non.
Du tout.
Non, on est bien alors, d'accord. Hein.
Oui.
C'est juste un support, en fait, pour vous aider.
Mm-hmm.
C'est ça, hein?
Oui, oui.
Ah non, mais non, c'est pas un théâtre de marionnettes. C'est vous êtes sur scène, mais il y a un support, en fait,
il y a une marionnette
pour vous
scène.
Aider,
oui.
Justement, pour vous permettre de nous raconter cette histoire et de nous faire partager ce moment aussi que vous avez vécu avec Jean.
Oui, avec Jean et avec Marie.
Et Marie en fait. Aussi, pardon. Et oui. Marie, donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Bon, Jean est mort il y a un an, en janvier 2022. Et depuis, la relation avec Marie s'est intensifiée. Mm. Et j'ai l'impression que Marie porte cette histoire. Marie et Jean, ils ont toujours témoigné ensemble dans les écoles. Et là, elle porte cette histoire aussi pour Jean. Et elle m'a invité de l'accompagner à Ravensbrück l'année dernière. Alors, on est allés tous les deux à Ravensbrück. Et cette voyage ensemble et de partager 4 jours ensemble, ça nous a vraiment rapprochés. Et c'est créé une amitié entre nous, entre deux femmes de différentes générations qui se rencontrent. C'était magnifique.
Marie, elle a vu le spectacle déjà?
Elle a vu le spectacle plusieurs fois.
Oui.
Et j'espère qu'elle va le voir le 24 aussi et venir.
Mais qu'elle sera présente peut-être?
J'espère qu'elle sera présente pour le bord de scène le 24 le soir. Mais ce n'est pas encore confirmé. Elle va voir si elle est disponible ou pas. Alors j'espère. Et on va voir.
Bah, c'est vrai, on espère aussi. C'est vrai que pour vous, ça vous fera énormément de bien. Et en même temps, aux personnes qui seront présentes, ça permettra aussi de comprendre encore plus votre histoire.
Et pour moi, c'est très touchant aussi de dire oui, c'est possible de mettre quand on est tous les deux ensemble et on témoigne ensemble, bourreau et victime. Et qu'elle et c'est pas seulement autour des crimes de l'humanité pendant le Troisième Reich, mais pour moi ça concerne toute crime aussi dans qui est enfoui dans les familles.
Oui.
Parce que le thème c'est aussi le silence, de pas parler. Et, mon grand-père n'a pas parlé. Et Jean et Marie, ils n'ont pas parlé. Il y a, c'est tellement fort, c'est tellement dur, c'est tellement douloureux que tu ne peux pas parler. Et de dire oui, 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 tu peux parler.
Comment vous avez découvert justement l'histoire de votre grand-père ?
Bon, ce n'est pas une découverte, c'est juste mon regard qui a changé. L'histoire était toujours là, je le savais toujours.
Mais comme il ne parlait pas, en fait, comment vous l'avez
bon,
su?
Bon, c'est pas qu'il ne parlait pas.
Il ne parlait... disait pas des choses.
Et non, il parlait, bien sûr. Il parlait. Mm-hmm. C'était un homme normal qui parlait. Moi, j'ai très peu de souvenirs. Moi, je n'ai jamais parlé avec lui parce que je n'étais pas dans le cercle des favoris. Alors, il y avait... Ce qui m'étonne dans ma famille, de voir que cette sensation de supériorité, hiérarchisation des gens n'était pas seulement à l'extérieur, alors que les Polonais étaient vus comme sous-hommes.
Oui.
Les Juifs sont des choses. Il y avait cette hiérarchisation des gens. Et du coup, mon grand-père était supérieur. Mais... ça, c'était une manière de penser générale. Ce n'était pas que les gens en dehors, c'était aussi les gens dedans.
Oui, bien sûr.
Ma petite sœur était handicapée. Elle n'était même pas considérée.
Non.
Moi, j'avais des yeux bruns, des cheveux bruns, un visage rond. Et je me suis rendu compte récemment que d'avoir un visage rond... c'est un visage slave, c'est moche. J'étais moche.
Pour eux.
Oui. Et je faisais partie des...
mis de côté.
Mis de côté. Mais ça, je savais pas si... Parce que dans la famille de mon grand-père maternel, c'était la même chose. Ça aussi, c'est rentré dans les familles. Et parce que c'est un système qui... systémique. C'était une pensée systémique, ça... pris tout. C'était maladie, en fait, pour moi. Et alors, je ne peux pas dire que j'ai découvert, je le savais toujours. C'est juste moi, ma protection, parce que j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait une thérapie, j'ai fait la formation technique Alexander, j'ai veillé, j'ai des enfants, ça veut dire l'expérience me permet, ou ma confiance en moi permet d'enlever les couches. Et en enlevant les couches, je me rends compte que j'ai toujours su.
Oui, c'était... En fait, c'était enfoui.
Oui.
Mais vous l'aviez toujours su au fond de vous.
Probablement, j'ai mis cette protection pour ne pas sentir. Parce que c'était trop douloureux de sentir. Ma mère, par exemple, on lui a dit, mais maman, fais une thérapie. Et elle a dit, non, 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 si je commence à gratter, ça va saigner, ça va jamais s'arrêter. Je fais pas. Et je crois que j'avais la même sensation, que c'est tellement plus grand que moi que je peux pas faire face. Et comme je peux pas faire face, j'ai construit
des murs.
Des murs, des structures, des effachaudages autour de moi.
Une carapace.
Une carapace. Et alors, en enlevant cette carapace, qu'est-ce qui sort ? La possibilité de sentir, de regarder, de voir, d'être vu. Et après, cette possibilité, comme je suis de formation mime, clown, comédienne, chanteuse, musicienne, j'ai pris tout ça et alors il fallait absolument le mettre en forme, de lui donner une forme. Oui, de trouver un langage aussi, de parler. Et c'est ça, ce spectacle.
Alors, vous avez dit que vous avez commencé par un concert. Et d'ailleurs, dans le spectacle, vous avez gardé la musique.
Non.
La musique est importante ou pas dans le spectacle ?
La musique est très importante, mais je ne gardais pas la musique de ce concert.
Non, pas la
concert.
Même du concert. Je parle l'importance de la musique, en fait.
La musique est très importante parce que déjà, il fallait construire une bande de son. Parce que j'avais cette idée de transmission intergénérationnelle, qu'au début, moi, je suis une petite fille, alors j'ai la voix d'une petite fille et mon fils, qui est musicien, rappeur, franco-allemand, et il m'a créé ma voix, une voix de petite fille. Et après, alors ça c'est... Et il a intégré aussi les interviews de Jean et Marie. Mmh. Et alors pour le début, c'était clair, comme c'est un théâtre aussi visuel, avec la marionnette, je ne parle pas, il faut du support. Et de pouvoir le situer avec la musique commence avec un traditionnel bavarois, mais... actualisé d'aujourd'hui. D'accord. Et avec des loops, un violon en contrebasse, c'est Talia Henning et Gabriel Gonin qui est en contrebasse qui ont créé cette musique et ensemble avec Axel c'était mélange pour mettre un espace pour créer l'espace et aussi de parler des moments où moi je parle pas de que c'est un autre langage aussi. Alors il y a plusieurs langages dans ce spectacle. Il y a la marionnette, il y a la musique, il y a le décor et il y a
il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, on a hâte de découvrir ça le 24 et 25 mars au Théâtre de Pavée. Alors, le 24, deux représentations à 14h, ouvert à tout le monde, pour les sourds et muets. Et puis, le 24 au soir à 20h30. Et le 25, c'est aussi le soir à 20h30.
Oui, 20h30.
Que dire que... je vous laisse la parole pour finir. Un mot ou une phrase pour finir ? Quelque chose pour donner envie.
Je ne sais pas si ça donne envie, mais moi, c'est un processus, ce n'est pas une fin. C'est un spectacle, c'est un processus, ça veut dire que ça mène autre chose, des rencontres différentes. Et là, je suis déjà sur le projet de travailler plus en Allemagne aussi, de faire des rencontres avec des jeunes français et allemands. Et de parler, de pouvoir trouver une autre manière de parler aussi aux jeunes. Ça, pour moi, c'est hyper important.
Mais oui, c'est vrai que c'est beau ce que vous dites, parce qu'il y a cette envie de transmission.
C'est
cette
ça.
Cette envie de transmettre aux jeunes et de transmettre à la nouvelle génération pour ne pas oublier, en fait.
Mmh. Et que c'est toujours actuel.
Oui. Ah, merci beaucoup d'être venu, merci de nous avoir fait partager beaucoup d'émotions dans le studio aujourd'hui. Là, c'est vrai que j'ai des frissons, j'ai hâte de voir le spectacle. J'espère venir le 24 mars à 14h pour voir justement avec cette personne qui pourra retransmettre vos mots, pouvoir les ouvrir à tout le monde. Merci immensément Ilka.
Merci beaucoup à vous.
C'était Chaud devant théâtre avec le spectacle Opa et nous avions l'honneur d'avoir Ilka Firkent dans nos studios. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time.